Vainqueur dans la guerre, j'ai pensé que le temps était venu de jouir du triomphe. Mais quand la nouvelle de vos dissensions parvint jusqu'à moi, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une affaire sans importance, et désireux de porter remède à ce mal, je vous ai immédiatement tous réunis. Extrait de l'allocution de l'empereur Constantin à l'ouverture du Concile de Nicée.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le Concile de Nicée est un moment extrêmement important dans l'histoire du christianisme, puisque c'est le premier concile œcuménique. Je laisse de côté ce concile de Jérusalem qui est regardé avec intérêt par les historiens, mais ils hésitent véritablement à le traiter de concile, alors que celui qui est convoqué à Nicée en 325 est véritablement le grand premier concile œcuménique. Il faut dire que le contexte favorise la réunion des évêques de la chrétienté, ou du moins d'une bonne partie d'entre eux. En effet, l'empereur Constantin, en 313, avec son collègue Licinius, avait proclamé à Milan un édit de tolérance qui faisait du christianisme, non pas la religion officielle de l'État romain, mais une religio licita, une religion autorisée, reconnue, et pour laquelle l'empereur allait faire preuve de largesse, même s'il était conscient qu'il était à la tête d'un empire qui était largement encore polythéiste. D'autre part, autre élément qui favorisait également le concile de Nicée, c'est que l'empereur venait de réunifier le pouvoir impérial autour de sa personne, puisque, suite à une guerre civile, il avait réussi à éliminer son concurrent Licinius. Et enfin, troisième élément qui explique que l'empereur ait convoqué le concile, ce sont les querelles autour de l'arianisme, des questions posées par l'arianisme sur le statut, la nature du Christ. Est-il véritablement à égalité du Père ? Ne soyons pas étonnés que ce soit l'empereur qui, à la fin de l'année 324, convoque les conciles. Pendant plusieurs siècles, ce fut le cas. Ce sont les empereurs qui, depuis Byzance la plupart du temps, convoquaient les évêques pour débattre de questions de discipline, de théologie. Et donc, c'est bien l'empereur Constantin qui a pris l'initiative de convoquer les évêques à Nicée, petite cité à quelques dizaines de kilomètres de Constantinople, où se trouvait une résidence impériale et où l'on pouvait loger les évêques. Il était lui-même d'ailleurs surnommé évêque placé par Dieu pour les affaires du dehors. C'est-à-dire qu'évidemment, Constantin n'était pas un évêque au sens strict du terme, mais enfin son rôle religieux était indéniable et son attention au christianisme aussi. En effet, Constantin était quelque peu chagriné. Il le dit d'ailleurs dans son discours au début du concile, des divisions qui étaient apparues dans l'Église, en particulier à cause de l'arianisme. Nous aurons l'occasion d'y revenir d'ici peu. Et donc, il avait demandé aux évêques de se réunir. Mais voyons tout de suite que ce concile est d'abord un concile oriental. Il y a eu 250 à 318 évêques, très peu d'occidentaux. Néanmoins, un a compté, c'est Osius de Cordoue, qui a présidé les débats et qui représentait l'évêque de Rome qui ne s'est pas déplacé. La présidence, d'ailleurs, revient aussi à l'empereur, qui est souvent là, qui est attentif. Alors, il n'est pas très bon hellénophone. D'ailleurs, le discours d'ouverture a été prononcé en latin et ensuite fut traduit. Mais il suit les débats et il intervient rarement, mais des fois avec une espèce d'humour. Quand, par exemple, un évêque, Arsacius, était sur des positions d'une intransigeance absolue vis-à-vis de tous les autres, il lui a répliqué « Arsacius dresse une échelle et monte seul au ciel ». Une manière de dire que finalement, l'aspect intransigeant de cet évêque l'avait quelque peu irrité. Alors, quels ont été les débats du concile ? D'abord, il faut voir que ces débats ont traité de questions, je dirais, de discipline. Par exemple, on a traité, parmi les 20 canons du Concile de Nicée, de la question des membres du clergé qui auraient été mutilés involontairement, suite à un accident, à une opération chirurgicale, voire même éventuellement à un effet d'une persécution, puisque la dernière persécution remontait au début du IVe siècle. Et certains disaient que quand on était mutilé, eh bien, on ne pouvait pas servir à l'autel. Il a été, au contraire, affirmé que les membres du clergé, qui étaient mutilés de manière involontaire, pouvaient rester membres de ce clergé. Il est également prévu que il y ait, en vue du baptême et de la cléricature, une véritable préparation, que ça ne se fasse pas trop à la va-vite. Quant à la présence féminine auprès des clercs, en tout cas de ceux qui sont célibataires, car en fait une partie du clergé était mariée, eh bien il est prévu qu'il n'y ait pas de femme qui s'installe sous le toit de la demeure de ces clercs, sauf, dit le concile, la mère, la tante ou la sœur, ou, je cite là encore le concile, toute personne qui échappe aux soupçons. Traduisons, des personnes suffisamment âgées pour ne pas éventuellement tenter le prêtre dans sa demeure. Ensuite, il est précisé que l'excommunication doit s'appuyer sur des faits tangibles et ne doit pas être fait par jalousie ou par vengeance. Autre élément précisé, la présidence d'honneur est prévue, alors non pas à l'époque, pour l'évêque de Rome, mais pour l'évêque d'Aélia, c'est-à-dire de Jérusalem. La question de la présence, effectivement, et de la prééminence de l'évêque de Rome est un long débat qui va parcourir d'autres conciles. Il y a aussi, enfin, une question de discipline qui a été abordée, c'est la question des lapsis, c'est-à-dire ceux qui étaient tombés, qui avaient renié leur foi au moment de la persécution de Dioclétien entamée en 303. Certains étaient sur des positions intransigeantes. Finalement, le concile a estimé qu'il fallait les réintégrer dans la mesure où ils auraient eu une période de pénitence probatoire allant de 3 ans à 7 ans. Donc, vous voyez, une bonne partie du concile a été effectivement la question disciplinaire. Mais l'autre partie du concile a été la question de foi, une question dogmatique, c'est la place du Christ. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Cette question de la place du Christ dans la foi chrétienne est une question évidemment fondamentale. Or, les théories d'un prêtre, Arius, avaient, je dirais, provoqué le débat. Dans la mesure où, selon Arius, eh bien, le Christ n'était pas de même nature que le Père et qu'il y avait bien une forme de hiérarchie divine, le Père étant supérieur au Fils. Cette théorie d'Arius était partagé par d'autres évêques, et si l'on se place d'un point de vue impérial, Constantin comprenait assez bien cette théorie dans la mesure où il avait une vision lui-même du pouvoir et de la foi très impériale. C'est-à-dire que lui avait obéi à son père, il estimait que ses fils devaient lui obéir, et que donc il imaginait bien, dans la sphère céleste, que le père ait une prédominance vis-à-vis du fils. Or, les évêques ont combattu la thèse d'Arius et ils ont donné lieu au credo de Nicée, qui est un credo fondamental, même si, nous allons le voir, il a été largement complété par la suite. Mais l'essentiel, les bases de la foi chrétienne sont placées. Vous connaissez ce texte, mais il mérite tout de même d'être lu et quelque peu commenté. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de toutes les choses visibles et invisibles. Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, ce qui est au ciel et sur la terre, qui pour nous, hommes, et pour notre salut est descendu, s'est incarné, s'est fait homme, a souffert et ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, et viendra de nouveau juger les vivants et les morts, et au Saint-Esprit. Et il y a comme une espèce de post-scriptum à ce premier credo, où il est précisé, ceux qui disent, il y a un temps où il n'était pas, avant de naître, il n'était pas, il a été fait comme les autres, les êtres tirés du néant, il est d'une substance, d'une essence différente, il a été créé, le Fils de Dieu est muable et sujet au changement, l'Église catholique et apostolique les anathémise. C'est-à-dire que là, il y avait bien effectivement une condamnation nette des théories de l'arianisme. Mais enfin, ne nous leurrons pas. Ne croyons pas que quand ce texte est voté le 19 juin 325, l'arianisme est terminé. À vrai dire, il continuera et il sera à nouveau condamné au Concile de Constantinople en 381. Une dernière remarque à propos de ce concile, c'est que le canon 20 s'intéresse à la manière de prier. Or, nous voyons désormais dans nos églises, effectivement, des personnes qui s'agenouillent, d'autres qui prient en orant, debout, etc. Vous allez voir que le concile s'est efforcé de préciser les choses et elle favorise plutôt la prière debout. Voilà le canon 20 du concile. Comme quelques-uns plient le genou le dimanche et le jour de la Pentecôte, le Saint-Concile a décidé que pour observer une règle uniforme, tous devraient adresser leur prière à Dieu en restant debout. Voilà, il peut y avoir donc quelques évolutions.